Bon, on est là. Je vais aller tout de suite le rejoindre. Le fan numéro un de Donald Trump, Raphaël Jacob, est avec moi. Bonjour, Raphaël.
Rock, je pense que d'emblée, il faut préciser, surtout dans le contexte actuel, que tu plaisantes pour les gens qui l'ont peut-être pas compris.
Oui, je plaisante. Je suis sarcastique.
Parce qu'il y a des âmes très sensibles.
Non. Mais oui, mais c'est quand même toi qui as écrit un livre sur lui, là.
Oui, absolument.
Faut le dire. Mais c'est pas parce que tu as écrit un livre sur lui que t'es son fan.
T'as tout compris.
Bon, très bien. Coudon, Raphaël, là. Alors, conflit aux États-Unis, conflit racial aux États-Unis pour les nuls. Je t'écoute.
Ben, en fait, avant de m'écouter sur le conflit racial, je veux renchérir ce que tu as dit avant que je rentre en onde. C'est-à-dire que le conflit racial, ou plutôt la vidéo spécifique là, de George Floyd, cette vidéo horrible-là, c'est pas l'origine de la crise. C'est la bougie d'allumage de ce qu'on voit. L'ampleur de ce qu'on voit présentement, c'est pas à cause seulement de George Floyd. Il faut réaliser que du côté américain de la frontière, ce sont seulement quelques kilomètres qui nous séparent d'un point de vue physique, mais d'un point de vue culturel et historique, c'est comme une planète différente à plusieurs égards. Toute la question du racisme, des relations entre les forces de l'ordre et plusieurs communautés à majorité afro-américaine aux États-Unis, ça fait pas des mois ou des années, ça fait des décennies que ça fomente toute la colère, la rage même, le ressentiment. T'avais ça en trame de fond. T'avais des années de polarisation, de clivage, de chicane, de division sociale, politique, économique extrêmement profonde qui datent de bien avant Donald Trump, mais qui ont été accentuées sous la présidence de Donald Trump. Et t'avais surtout, et tu l'as dit, et il faut le redire haut et fort, t'as 40 millions de chômeurs présentement aux États-Unis. 40 millions de chômeurs. C'est, tu sais quoi sera 40 millions de chômeurs? C'est plus
que le Canada.
Exactement! Je vais le répéter, là, parce que c'est ahurissant. T'as plus de chômeurs américains présentement que de citoyens canadiens. Ouais. Et la situation aux États-Unis, la pandémie et le confinement n'ont pas les impacts qu'ils ont eu ailleurs dans le monde. T'as des lignes, je sais pas si tu as vu les images, notamment sur les médias sociaux, qui circulent depuis des semaines. T'as des lignes qui font littéralement des kilomètres de long de gens pour aller chercher de la nourriture.
C'est ça.
C'est un climat de misère humaine comme on n'en a jamais vu de nos vivants. Tu as une tension sociale, évidemment, et tu as 3 mois sans possibilité d'avoir un exutoire. C'est ça aussi qu'il faut réaliser. La tension est au couteau et là, évidemment, survient cette horreur-là, cette mort, pour pas dire ce meurtre-là, de ce type, George Floyd, en plein cœur du Minnesota. Et là, évidemment, tu as le catalyseur que ça prenait pour que tout éclate, pour que tout pète en bon français. C'est ça qu'on voit présentement. C'est une foule de facteurs toxiques qu'on avait, qui ont été combinés ensemble, et là, ça éclate.
Pourquoi tu parlais, juste revenir, pourquoi tu dis on a 3 mois où est-ce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'issue? Tu parles de quoi, du 3 mois?
Dans le sens que quand ça fait 3 mois que tu as une population qui est confinée, qui n'a pas d'exutoire, parce que confiné, c'est ça, tout ce qui dans une vie normale, dans une société normale, te permet de te relâcher. Puis je sais que ça peut avoir l'air juste évident, mais ça mérite d'être dit, sortir, fraterniser, aller à un show, aller faire du sport, aller voir du sport, tout ce qui te permet de relâcher la tension dans une journée ou une semaine normale, c'est complètement sur la glace depuis 3 mois. Ça, en soi, est-ce que c'est assez pour créer des émeutes? Évidemment que non. Si c'était le cas, t'en aurais en Norvège, t'en aurais au Danemark, t'en aurais partout, ça confiné. Ouais. T'en as pas en Norvège puis au Danemark. Parce que, contrairement aux États-Unis, premièrement, t'as un filet social qui est pas le même. T'as une panoplie de gravité dans les problèmes sociaux qui est pas la même. Donc, t'avais tous ces problèmes extrêmement graves aux États-Unis, en énorme partie des problèmes qui sont particuliers aux États-Unis, et en plus, t'as 3 mois de climat de peur, de tension, sans possibilité d'avoir un exutoire pour relâcher ça, t'as pas de soupape. Fait qu'imagine qu'est-ce qui arrive, évidemment, quand t'as une bougie d'allumage aussi dramatique, aussi scandaleuse que celle qu'on a vue la semaine dernière au Minnesota, c'est inévitable que ça pète. Je vais être franc, une fois que ça s'est dit, je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi, les mots me manquent un peu, là, d'aussi historique, là, dans le mauvais sens du terme, parce que ce qu'on observe aux États-Unis, je m'excuse, là, il y en a eu des émeutes, il y en a eu des tensions, il y en a eu des crises. Ce qu'on voit, on n'a pas vu ça depuis 50 ans, au moins 50 ans. Depuis la fin des années 60, il n'y a rien de tel.
Et dans ces circonstances-là, c'est là qu'on a besoin d'un leader de compassion et d'action.
Pas quelqu'un qui met de l'huile sur le feu peut pas dire que Donald Trump joue ce rôle-là. Là.
Donald Trump, depuis une semaine, joue un rôle, c'est-à-dire tweeter. À part ça, il n'a rien fait. Disons-le franchement, là. C'est ça l'ironie pour moi la plus grande, ou une des ironies les plus grandes de toute cette affaire-là. L'homme qui est président présentement a une obsession, on le sait, là, à être normalement au centre de l'attention, être toujours sous les feux des projecteurs, à un point tel où il y a cette espèce de manie-là d'essayer de s'ingérer dans plein de disputes, puis de chicanes, puis de débats qui ne le concernent même pas. Là, c'est pas que ça le concerne, c'est pas juste que ça le concerne, c'est qu'il a un pouvoir, un rôle, une responsabilité unique d'adresser le problème et il est, tu me pardonneras l'anglicisme, oui. Rock, là, missing in action. Oui. Il est juste pas là. Il était pas là jusqu'à hier. Finalement, hier soir, il a fait une première vraie déclaration publique. Et qu'est-ce que cette déclaration publique-là est venue faire? Évidemment, jeter de l'huile sur le feu. Fait que soit il est silencieux, et évidemment c'est scandaleux en soi, ou quand il prend la parole, ça semble empirer le problème. T'sais, fait que, parce que non là, seulement...
Ouais, vas-y. Parce que là, dans ses déclarations, premièrement, il rabroue d'autres élus en disant que vous êtes mous, vous êtes des momounes. Puis après ça, là, il invoque la possibilité d'utiliser l'armée. Donc, pour à l'intérieur des frontières américaines, ce qui est un enjeu constitutionnel, entre autres. Là, il a fait un geste hier, il s'est présenté devant... Ben, est-ce que c'était une église catholique qui était un peu maganée, puis là, il est sorti à la Bible? Qu'est-ce qui est arrivé hier?
OK, je t'explique ça. Premièrement, quand je te parlais il y a une minute, le dimanche, que je pensais jamais voir de ma vie, là, dimanche soir, à Washington, en fin de soirée, on a eu des images vraiment troublantes parce que c'était juste en marge de la Maison-Blanche, ce qu'on appelle le parc Lafayette. Je ne sais pas si c'est déjà allé à Washington, là, mais dans les alentours de la Maison, en fait, c'est plus que les alentours, c'est directement de l'autre bord de la rue. Tu as un parc historique et tu as aussi une église historique qui s'appelle l'église St. John's. Et les images troublantes en question, ben c'est pas compliqué, c'est qu'on a incendié cette église-là. Et donc, évidemment, il y a un aspect très, très fort, très symbolique. Et hier soir, Donald Trump, après avoir déclaré qu'il encourageait, qu'il était allié avec les manifestants pacifiques, ordonne aux forces de l'ordre de disperser les manifestants pacifiques qui se trouvaient proches de l'église en question, donc proches de la Maison-Blanche. Pourquoi? Pour lui-même pouvoir marcher devant les caméras du monde entier et se rendre à l'église et tenir une Bible dans ses mains. La Bible a été utilisée, là, on utilise l'expression en anglais, un prop. Là. Oui. C'était utilisé vraiment comme opportunité d'apparaître devant les médias.
Photo-op.
Exactement. Ouais. Pour faire un photo-op point à la ligne. Donc, avec cette Bible-là. Donc, évidemment, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ça aussi, ça s'est venu jeter de l'huile sur le feu parce que ça a été vu comme un acte de provocation évident et délibéré. Tu sais, et là, on se retrouve, on est quoi? On est mardi midi.
Non, mais c'est la signification de la Bible. Mais la signification l'utilisation de la Bible dans le contexte, c'est quoi?
Écoute, il faudrait demander au principal intéressé parce que ça a été interprété de différentes façons par différentes personnes. Je dirais que de façon universelle, ça a été vu évidemment comme jusqu'à un certain point, un geste de provocation. Mais après ça, au-delà de ça, est-ce que ça veut dire, il y en a qui vont dire que c'était une façon de dire Dieu est de notre côté, d'autres qui vont dire tout simplement que c'était une façon de dire que on se tenait debout pour protéger nos institutions comme cette église-là qui a été brûlée. Tu sais, fait il y a différentes façons de l'interpréter. D'accord. Ce que je peux dire qui, moi, m'inquiète, que ça non plus, je pensais pas voir ça de mon vivant, c'est qu'aujourd'hui, tu as eu Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, donc je l'explique concrètement, là, la démocrate la plus importante des États-Unis d'Amérique, qui, à son tour, apparaît devant les caméras, et qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains? Une Bible. Tu sais, quand tu as le leader d'un parti politique qui tient la Bible, la leader de l'autre parti politique qui tient la Bible et qu'on est à couteau tiré, on s'entend-tu que c'est pas nécessairement un symbole très, très sain? Tu sais, je veux pas faire dans la peur, là, mais disons que c'est un climat comme on n'en a jamais vu aux États-Unis présentement.
Et tout ça dans un contexte électoral.
En plus, comme si c'était pas assez, à 5 mois d'une élection présidentielle. Tu sais, quand je te dis qu'on est en terrain inédit, on est en terrain inédit. T'sais, juste la crise qu'on vivait depuis 3 mois, on n'avait jamais vraiment vécu ça. Là, tu ajoutes cette nouvelle crise-là et en plus, tu mets le tout dans un contexte électoral. T'sais. Ce qui est assez ahurissant, là, assez décoiffant, c'est que quand on est tombé vraiment à pieds joints dans la crise du coronavirus, il y a de ça à peu près justement 3 mois. Moi, ce que j'avais dit, c'est dans le contexte américain, là, pas ailleurs dans le monde, ouais. Pas ici, mais dans le contexte américain, pour moi, il y avait 4 types de crises qui allaient être causées si on suivait la voie, de la ligne dure, le confinement, puis que ça durait. On allait avoir évidemment une crise sanitaire, là, ça c'était inévitable. Deuxièmement, on allait avoir une crise économique.
Ouais.
Troisièmement, on allait avoir une crise sociale. Et quatrièmement, on risquait d'avoir une crise démocratique. Là, c'est pas compliqué. La première puis la deuxième, ça fait longtemps qu'on les a. Crise sanitaire, crise économique.
Bien sûr.
Là, pour ceux qui se demandent c'est quoi une crise sociale, là, une vraie crise sociale,
on l'a.
Vous l'avez devant vos yeux à la télévision à chaque jour depuis une semaine. La quatrième crise, celle-là est pas inévitable, mais qui peut être la plus dangereuse et qui laisserait le plus de marques, c'est une crise démocratique. Parce que, imagine, c'est dans le contexte actuel, on se rend au mois de novembre et l'élection est contestée. Ça, c'est pas inévitable, je le répète. Les 3 autres types de crise, pour moi, c'était inévitable. Celle-là, c'est pas inévitable. Ça peut être évité, mais c'est également possible et on doit l'envisager. Qu'est-ce que tu fais dans le contexte aussi explosif que celui qu'on a présentement?
Mais qu'est-ce que tu dis?
Tu te ramasses dans 5 mois.
Qu'est-ce que tu dis, contesté?
Premièrement, si tu as un scénario à la 2000, il y a 20 ans, là, à la Bush contre Gore, là, où c'est excessivement serré, entre un et l'autre, entre Trump et Joe Biden.
Oui.
Et que, par exemple, c'est un scénario, c'est pas le seul, mais c'est loin d'être un scénario, disons, extravagant, là, ou exotique. Disons que Trump perd, mais qu'il perd par une très, très, très petite marge.
Oui.
Et qu'il refuse de reconnaître la légitimité de la victoire de son adversaire. Dans quel genre de bordel national est-ce que tu penses qu'on va être plongé? Tu sais, il y a ça aussi là, qu'il faut réaliser. Et ça ne veut pas dire, tu sais, sans faire encore une fois dans les scénarios qui là seraient vraiment catastrophes, là, que Donald Trump va demander à l'armée d'empêcher à Biden d'arriver à la. C'est pas ça, ça n'a pas besoin d'être ça. Même si Donald Trump quitte formellement ses fonctions après s'être fait battre là, le 20 janvier prochain, parce que là, on sait le 20 janvier, c'est la date formelle du nouveau mandat, du prochain mandat présidentiel, même s'il part. Le simple fait de refuser, par exemple, de reconnaître la légitimité ou de remettre en question la légitimité de l'élection, as-tu une petite idée à quel point ce serait toxique? Ça serait toxique à la base, mais toxique dans le contexte qu'on a présentement. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est la poudrière dans laquelle on est depuis les derniers mois qui ne va qu'en empirant et qui peut encore empirer. Ça peut se résorber, ça peut se calmer, souhaitons-le, je le souhaite de tout mon cœur. Mais il y a d'autres risques qui sont quand même aussi à l'horizon. C'est vraiment sans précédent ce qu'on vit.
Puis on n'a même pas abordé la question de la Chine ensemble.
Ben, effectivement.
Alors, ça sera pour une prochaine, parce que là, le temps file. Merci beaucoup, Raphaël. Super intéressant. Merci à toi. À la prochaine.
Bonne journée.
Merci. Bye, bye Raphaël Jacob. Expert en politique américaine, il est bon, hein? Puis il n'invente pas, là. Regardez les faits, là. Regardez la situation. Bon, en parlant de faits, crise sociale, émeute dans les rues, tensions raciales aux États-Unis, on est à un jet de pierre. Les États-Unis, tous, nous avons le rhume. Qu'en est-il au Québec? Est-ce que ces tensions raciales existent au Québec? Est-ce qu'on sent qu'il y a du profilage racial? Ben, on est allé sur le terrain. Sabrina Rivet est à Montréal-Nord plus tôt ce matin. Je vais aller la rejoindre pour jaser de tout cela après ceci.